15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Tous les jours donc avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous répondons à vos interrogations et il est là, bien sûr, à mes côtés, il sort de consultation. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au sport d'hiver. Certains d'entre vous ont la chance de pouvoir partir bientôt, faire quelques jours de ski. Eh bien on va vous expliquer dans cette émission que ça se prépare physiquement. Avec notre invité Vincent Martin, il est coach sportif. Vous allez voir que pour éviter la plupart des blessures, il faudrait préparer son corps avec des exercices spécifiques à faire quelques semaines avant, car on le sous-estime, mais une petite semaine de ski ou même de snowboard, cela peut être très violent pour notre organisme. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de douleurs abdominales chez l'enfant, un motif très fréquent de consultation. Il nous dira dans quelle situation cela doit vraiment inquiéter les parents. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des morpions, ces insectes le plus souvent transmis sexuellement. On les déteste et évidemment, eh bien, on vous dira comment les repérer, mais surtout comment s'en débarrasser. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces couples qui n'ont plus aucune relation sexuelle, mais qui s'aiment pourtant. Catherine nous dira si c'est vraiment possible de rester unis quand toute sexualité a disparu.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Céline, 37 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors moi, j'ai 4 enfants en bas âge, de 3 à 10 ans, qui sont à l'école. Le soir, quand ils rentrent, le goûter, c'est un moment crucial pour nous. Mais bon, j'arrive pas à leur faire des goûters équilibrés. Ils adorent les gâteaux, les viennoiseries, mais... pas très très bon pour la santé, donc si vous avez des petits conseils pour un petit peu varier les plaisirs et les goûts et leur faire un goûter équilibré, je suis preneuse. Merci.
Bon Jimmy, on va parler de votre repas préféré de la journée, le goûter,
oui,
la petite pause de 16h.
Oui,
bon allez, plus sérieusement, on va voir si c'est vraiment d'abord un repas qui est indispensable pour les enfants, oui ou non ?
Oui, pour les enfants, alors pour aussi les parents.
Les adultes, on peut aussi, mais bon, les enfants,
plaisir, les enfants.
Parlons des enfants.
C'est vrai qu'après une grosse journée à l'école, vers 15-16h, il y a ce petit creux qui fait qu'ils ont besoin d'un peu d'énergie pour rester en forme, d'autant plus que lorsqu'ils déjeunent à 11h30, le prochain repas au niveau du dîner est très tard. Donc imaginez l'amplitude horaire. Les nutritionnistes considèrent qu'il faut qu'ils couvrent ce goûter 15% des apports nutritionnels quotidiens contre 25% pour le petit déjeuner et 30% pour le déjeuner. Donc oui, pas question de faire sauter le goûter.
Bon ok Jimmy, mais du coup, alors ça doit faire 15% des apports alimentaires de la journée. Vous avez dit, mais on met quoi dedans dans ce goûter ?
Alors en général, on conseille que le goûter se compose de 3 familles d'aliments, un produit céréalier, un produit laitier et un fruit. Évitez les jus de fruits pour se désaltérer, préférez de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux.
Alors, pour avoir quelques conseils pratiques supplémentaires sur le goûter idéal pour les enfants, on a posé la question au nutritionniste Raphaël Gruman, on l'écoute.
Tout simplement, un morceau de pain, mais pain baguette par exemple, type tradition, vous faites un quart de tradition avec une barre de chocolat dedans, donc ça va remplacer le pain au chocolat sous forme de viennoiserie, cette fois donc un quart de baguette avec une barre de chocolat, et vous pouvez pourquoi pas donner un fruit frais ou une compote, on va essayer de la prendre sans sucre ajouté, c'est mieux. On peut avoir des boissons un peu plus légères, aujourd'hui on a des eaux qui sont aromatisées à la fraise, qui sont donc du coup moins sucrées, ou des eaux citronnées qui vont être moins sucrées et qui va éviter surtout d'arriver jusqu'au soda.
Bon, ben merci beaucoup. C'était un son donc qui a été réalisé par Benjamin Lévesque. C'était Raphaël Gruman, nutritionniste. Allez, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Anissa. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Ma grand-mère a eu une descente d'organes récemment et je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que les organes tombent vraiment ? Je sais qu'elle doit se faire opérer bientôt et je me demandais en quoi consistait l'opération. Est-ce qu'il s'agit de les remonter ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Merci beaucoup.
Jimmy, une descente d'organes, c'est quoi précisément ? C'est fréquent déjà, je crois, chez les femmes surtout. Hein.
Oui, on appelle ça le prolapsus. C'est une pathologie fréquente de la femme. C'est au moins une femme sur 3 après la ménopause.
Ah oui, quand même.
Alors quand on dit prolapsus génital ou descente d'organes, évidemment que l'organe ne va pas descendre, mais il va quand même être visible. Et c'est lié au fait que les organes qui sont présents dans le bassin, c'est-à-dire la vessie, le rectum ou l'utérus, ne sont plus maintenus par les muscles ou des ligaments qui constituent le plancher pelvien qui sont censés les retenir. Et donc, par moments, ces organes peuvent descendre et peuvent être visibles à l'extérieur.
Alors, pourquoi tout d'un coup, ça arrive chez les femmes et donc le plus souvent après la ménopause ?
Alors, dans la plupart des cas, les prolapsus sont favorisés soit par des grossesses, notamment lorsqu'elles sont répétées, la répétition des accouchements par voie basse et surtout les traumatismes obstétricaux lors de l'accouchement, un travail qui aurait été assez long avec un accouchement difficile, une déchirure, l'utilisation de forceps, un poids élevé, un gros poids de naissance d'un bébé.
Ça, c'est des facteurs de risque.
Lors de l'accouchement. Un relâchement musculaire et ligamentaire qui est secondaire au vieillissement et à la carence en œstrogène, notamment après la ménopause. Et puis, l'obésité est un facteur de risque. Enfin, certains gestes chirurgicaux dans plus jeunes, notamment lorsqu'on touche aux organes pelviens, lorsqu'on a par exemple une hystérectomie pour des fibromes, peuvent fragiliser les organes du petit bassin et entraîner des prolapsus.
Alors très rapidement, parce qu'on fera peut-être une émission sur le prolapsus pour en dire plus, mais est-ce qu'il y a des solutions donc, pour arranger ça ?
Oui, le traitement il est chirurgical, il n'y a pas vraiment de médicaments, c'est un gynécologue obstétricien ou un urologue qui le fait. Le but c'est de repositionner correctement les organes en adaptant parfois la technique à l'organe qui doit être refixé, soit en resserrant des ligaments ou des muscles. Le meilleur traitement c'est la prévention, n'hésitez pas au moins à faire la rééducation périnéale après un accouchement, c'est le minimum.
Avec une sage-femme ou un kiné. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Anissa qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des douleurs abdominales chez les enfants. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le coach sportif Vincent Martin, avec qui nous allons parler de préparation au sport d'hiver. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le coach sportif Vincent Martin, avec qui nous allons parler de comment bien se préparer au sport d'hiver, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez des douleurs abdominales chez l'enfant. Symptômes, il faut le reconnaître, souvent inquiétants pour les parents, mais aussi pour les médecins je crois. C'est un motif fréquent de consultation.
Oui, les douleurs abdominales sont vraiment un motif très fréquent de consultation. Ce symptôme induit systématiquement les parents, mais aussi les médecins, à rechercher des causes urgentes, notamment chirurgicales. Le diagnostic qui inquiète le plus les parents, c'est l'appendicite. Heureusement, les causes chirurgicales ne sont pas du tout les plus fréquentes.
Mais alors comment on les reconnaît, par exemple, chez un nourrisson ? Parce qu'ils ont parfois mal au ventre, mais on ne sait pas trop,
exactement.
Ils ne sont pas capables de le dire.
Alors, chez le nourrisson, des douleurs abdominales peuvent se manifester soit par des accès de pleurs, des cris incessants, ou des mouvements de jambes ou de tortillements. C'est sa façon à lui de dire qu'il a mal au ventre. Si votre enfant n'a pas de fièvre, qu'il n'a pas d'autres symptômes, et qu'il a moins de 3 mois, ça oriente plutôt vers des coliques. Parfois, lorsqu'un enfant présente des régurgitations importantes et qu'il pleure durant la prise de biberon, ça peut être un reflux douloureux. En revanche, un enfant qui pleure n'a pas forcément mal au ventre, il a peut-être besoin de manger, il est peut-être fatigué ou peut-être stressé. Et à ce moment-là, avec le temps, on arrive à distinguer des pleurs normales de pleurs qui nous feraient dire que l'enfant a mal.
Et chez le plus grand ?
Chez le plus grand enfant, c'est plus compliqué parce que souvent, il exprime la douleur assez vaguement, il montre autour de l'ombilic, autour du nombril, et c'est souvent très imprécis, alors que la douleur peut montrer quelque chose d'autre.
Et alors, qu'est-ce qui doit nous alarmer en tant que parents avec un enfant qui se plaint du ventre ?
Alors, quelques signes simples peuvent vous aider. Si la douleur est continue, permanente, que ça réveille l'enfant la nuit ou que ça l'empêche de dormir, que ça a un retentissement sur le jeu sur l'école. Il ne veut plus utiliser sa tablette, il préfère rester au lit, c'est inquiétant. Si la douleur, elle est précise, loin de l'ombilic, il vous montre un endroit très précis, alors que souvent, j'ai dit, il montre un endroit plutôt vague.
Une zone un peu vague, oui.
Exactement. D'accord. Si c'est provoqué par l'alimentation, s'il y a des vomissements bilieux et si, évidemment, il y a une altération de l'état général, un enfant qui serait apathique, géniard, doit forcément plus vous inquiéter.
Et une douleur abdominale, ça ne veut pas donc forcément dire qu'il y a un problème digestif en plus.
Et non, l'exemple le plus simple, c'est qu'une angine peut vous donner des douleurs abdominales, puisque lorsqu'un enfant a une infection ORL, une rhino, une otite, une bronchite, il a des ganglions au niveau du cou. Et lorsqu'il a de la fièvre, ces ganglions gonflent au niveau du ventre et font mal au ventre, alors qu'en fait, il a une angine. Donc toute douleur abdominale n'est pas forcément liée à une infection digestive.
C'est intéressant, ça,
une infection pulmonaire peut donner mal au ventre. Une infection rénale comme une pyélonéphrite, l'infection qui donne de la fièvre et qui ne donne pas forcément de douleur lorsqu'on urine, peut donner des douleurs abdominales. Une atteinte au niveau des ovaires chez l'adolescente aussi. Et attention, la torsion testiculaire peut donner des douleurs abdominales car l'enfant ou l'adolescent a du mal à montrer ses testicules. Il dit qu'il a mal au ventre alors qu'en fait c'est le testicule. N'hésitez pas si
vous avez à ça.
À poser la question, est-ce que tu as mal au testicule ? C'est une question toute simple. mais qui peut peut-être vous sauver la mise.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions et donc ces petits conseils simples. Hein, on n'oublie pas de poser la question sur les testicules, c'est important. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est Vincent Martin, coach sportif. Il est aussi responsable de l'expertise sportive chez Neoness.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, les sports d'hiver, le ski, certains ont la chance de pouvoir y aller bientôt et c'est super, tant mieux pour eux. Mais le problème, c'est que peu de gens s'y préparent comme il faut. Or, le manque de préparation, c'est vraiment une des raisons principales des blessures.
Exactement. 90% des blessés sont des personnes qui ne sont pas sportives tout au long de l'année. Ils ne se déclarent pas sportifs réguliers et vont prendre cette semaine de ski comme la semaine unique ou quasiment unique de sport dans l'année.
Ils donnent tout,
ils ne sont absolument pas préparés et souvent il y a des blessures qui peuvent arriver.
Jimmy ?
Quelles sont les blessures les plus fréquentes au ski ?
Alors tout dépend si ça va être du ski ou du snowboard. Au ski, il y a beaucoup de blessures au niveau des genoux, mais également sur les membres supérieurs, poignets, épaules. Là où au snowboard, étant donné qu'on est sur une planche unique et il y a moins de torsions de genoux lors des chutes, ça va être en très grande majorité les poignets puis les épaules toujours.
Les gens qui se blessent, qui sont dans une catégorie d'âge en particulier, on sait quel est le profil de celui qui va se blesser, grosso modo ?
Alors en fait, les enfants sont très souples, ont une réactivité musculaire très importante aussi, donc ils anticipent les chutes.
Et ils même tombent si pas
la
très
chute,
haut aussi.
Ils tombent pas très haut, ça. Et même si la chute est importante, ils sont tellement souples qu'ils se font assez rarement mal. Les personnes âgées, plus âgées, on va dire, au-delà de 50, 60 ans, vont être très prudents parce qu'ils se rendent compte de leurs limites et finalement vont prendre assez peu de risques. Et la tranche d'âge qui est la plus touchée, ça va être les 25-40 ans.
Ah oui.
Ouais, les 25-40 ans, bien sûr, non sportifs.
Parce qu'ils se la croient, ils se prennent pour plus fort qu'ils ne sont, voilà. Comme Jimmy, quoi, c'est ça.
C'est la nuance avec, mais bon, avec vous, Mélanie, peu importe.
Ils ont encore en tête leur capacité.
Les folies qu'ils faisaient à l'adolescent.
Exactement.
Et tout ça, ouais.
Ils prennent des risques, ils font du sport de manière démesurée sur cette semaine, et finalement, c'est la tranche d'âge la plus touchée.
Et puis, ils skient toute la journée sans s'arrêter, ils veulent profiter du forfait, et ça, c'est vraiment
exactement.
L'erreur à ne pas faire. Hein,
exactement. Ouais.
Merci beaucoup Vincent, on va reprendre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous dans un instant. On commence donc la préparation au sport d'hiver, vous allez voir, dans l'idéal il faudrait commencer cet entraînement du corps 8 semaines avant pour ceux qui ne font jamais de sport, un peu moins pour les sportifs réguliers, on va tout vous expliquer. Mais d'abord on s'échauffe avec un peu de musique, on écoute la chanteuse Zazie et son titre qui va nous mettre dans l'ambiance, ça s'appelle Speed.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le coach sportif Vincent Martin. Vincent, c'est parti. On va parler donc de la préparation physique avant de se lancer sur les pistes. D'abord, cette préparation du corps donc pour aller skier, avant d'aller skier, ça commence quand ? On devrait commencer dans l'idéal combien de temps avant ?
Alors, tout dépend si on est sportif dans l'année ou pas du tout. Si on n'est pas sportif, idéalement, c'est 8 semaines avant. Pour pouvoir avoir une intensité d'entraînement qui va aller crescendo et ne surtout pas être en surentraînement et dans une fatigue importante avant même d'avoir commencé à skier. Un sportif régulier...
Comme Jimmy qui fait du jogging tous les week-ends, par exemple, lui, c'est combien ?
Voilà, ça va être 4 semaines avant. Et un sportif très régulier, 10 à 15 jours.
Ah, vous ne le mettez pas direct, vous ne le connaissez pas, vous ne le mettez pas direct dans le sportif, sportif très régulier.
Oui, je vois que monsieur me connaît bien. Je suis un sportif PlayStation. Voilà,
occasionnel.
Mais comme, c'est-à-dire que même lorsqu'on est aguerri, finalement, une semaine juste avant de partir au ski, c'est pas suffisant de s'entraîner.
Non, le ski, c'est un sport qui est très complet et tout dépend du type d'activité physique qu'on fait. Quelqu'un qui va uniquement courir, par exemple, il va avoir des carences, enfin des manques de qualité physique lors de sa semaine de ski qui vont faire qu'il va devoir se préparer spécifiquement.
Vous disiez quelqu'un qui court, donc ça veut dire les gens qu'on voit faire des jogging tout le temps, qui ont l'air quand même des gens bien préparés, bien du point de vue cardio et sportif, ils courent tous les dimanches ou même plusieurs fois par semaine, ces gens-là, ça suffit pas ça ?
Alors en fait, lorsqu'on skie, il faut avoir un bon niveau cardio, mais également un renforcement musculaire et tendineux important. Donc quelqu'un qui va courir de manière régulière va... entraîner des fibres endurantes, mais ce n'est pas des fibres musculaires qui vont être particulièrement fortes et qui vont résister à des mouvements d'isométrie, c'est-à-dire lorsqu'on a une légère flexion qu'on va tenir pendant longtemps sur le ski.
Dans les skis, c'est ça, la position, c'est quand même genou fléchi partie de la journée. Quoi.
Et finalement, lorsqu'on court, on est sur un mouvement beaucoup plus dynamique et tonique que sur des skis où on est en grosse partie en force et en isométrie.
Et donc, le fait d'être plié comme ça, demi-fléchi toute la journée, ça, il faut préparer ses genoux d'une manière particulière.
Voilà, alors il faut préparer ses muscles, il faut préparer ses articulations et il faut préparer ses tendons également.
Jimmy,
si on fait de la natation, est-ce que c'est bien, c'est un bon sport pour préparer au ski ou encore une fois, c'est pas suffisant et il faudrait faire les Jeux Olympiques avant de partir sur les pistes?
Non, ce ne sera pas les Jeux Olympiques.
Il n'y a pas besoin de faire les Jeux Olympiques. Il faut avoir une préparation qui est réfléchie et complète. La natation est un sport génial pour le cardio. C'est un sport qui va nous donner une certaine tonicité musculaire plus sur le haut du corps que sur le bas du corps. Alors que lorsqu'on skie, on sollicite principalement quand même le bas du corps. Donc sur ça, il risque d'y avoir un petit manque. Et sur la natation, on navigue dans un milieu où on est en apesanteur et c'est un milieu assez mou qui ne va pas forcément renforcer nos tendons. Chose essentielle lorsqu'on skie pour encaisser les différents chocs et les possibles chutes.
Quelqu'un qui fait donc zéro sport, admettons, il y a quand même pas mal de gens qui vont sur les pistes. Je crois que dans les gens qui se blessent, il y en a beaucoup qui avouent, une fois qu'ils ont été blessés dans les sondages, je crois que vous avez des chiffres, qui font rien du tout le reste de l'année.
C'est ça. Combien 90% des blessés déclarent ne pas être sportifs du tout dans l'année.
C'est leur semaine, quoi. Ils donnent tout
cette
semaine-là.
C'est leur semaine, ils donnent tout. Ils voient le ski comme étant un sport de glisse où on se laisse aller du haut d'une piste vers le bas. Mais c'est finalement un sport qui est complet, contraignant.
Justement, je crois que là-dessus, vous avez des choses à expliquer. Une semaine de ski, grosso modo, pour l'organisme, on skie tous les jours, ça représente quoi?
Alors en fait, une journée de ski intensive, si on prend l'ouverture des remontées jusqu'à la fin, qui va être environ 9h-17h, avec une petite pause déjeuner, ça va correspondre environ à 2 heures de footing.
Tous les jours.
Tous les jours.
Ce que je fais régulièrement. Donc finalement, je ne suis pas très impressionné.
Courir 2 heures, c'est énorme.
C'est comme si un non-sportif se dit cette semaine, du lundi au vendredi, je vais aller courir tous les jours 2 heures.
C'est énorme.
Ouais, c'est quasiment un semi-marathon en plus, donc il faut se rendre compte de l'effort. Et vous dites qu'il faut se préparer 8 semaines avant, dans l'idéal quand on n'est pas très sportif, mais à quelle fréquence? Une fois par semaine, ça suffit? On est bon?
2 fois par semaine, ça va être l'idéal. Idéalement, c'est de répartir sur une séance qui va être plus sur du renforcement musculaire spécifique et une autre séance qui va être sur du
cardio,
entraînement cardio sur de l'endurance fondamentale.
Ça, on va en parler après dans le détail. Pour cette préparation, vous dites donc 2 fois par semaine. J'imite pas qu'une fois. Arrêtez d'essayer de toujours vouloir en faire moins.
Une, c'était déjà bien,
non,
mais bon.
Deux fois, mais est-ce que tout ce dont on va parler juste après, c'est on peut le faire en salle ou on peut le faire chez soi, cette préparation?
Non, on peut
faire... Je ne vais pas m'inscrire à la salle juste pour me préparer à aller au ski.
On peut faire pas mal d'exercices chez soi. Bien sûr, idéalement, une salle est beaucoup plus complète et le suivi va être beaucoup plus proche par des spécialistes.
Mais les exercices dont vous nous allez parler après, on peut les faire à la
exactement,
maison.
Exactement, on peut les faire à la maison.
Sans matériel particulier.
Sans matériel particulier.
Jimmy ?
Vous avez parlé d'endurance et d'endurance fondamentale. C'est un terme qui me paraît un peu technique, mais qu'est-ce que c'est que l'endurance fondamentale?
Alors en fait, sur les entraînements cardio, on a donc cette endurance fondamentale ou des exercices en fractionné. Donc en fractionné, le but c'est de faire monter le cœur très haut et de le faire redescendre très bas pour apprendre au cœur à avoir cette mobilité, on va dire, en termes de fréquence cardiaque. L'endurance fondamentale, on va se mettre sur une base qui est assez lente, environ à 70% de sa fréquence cardiaque max. Ce qui va correspondre, en fait, pour avoir un repère, lorsque vous courez, vous pouvez répondre à votre partenaire, lui parler de manière brève, pas tenir non plus une discussion trop longue. Là, vous êtes sur de l'endurance fondamentale. Et c'est la manière avec laquelle on développe le plus son endurance. C'est la base de la pyramide de l'endurance.
Et c'est avec ça qu'on se prépare pour le cardio, pour le ski.
Voilà. Sur le ski, à moins d'être dans du ski de compétition,
globalement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos auditeurs, je pense, vous inquiétez
exactement.
Pas.
Exactement. Mais... Globalement, on va être sur ce type d'effort et ce type de fréquence cardiaque recherchée.
Et donc, pour atteindre cette endurance fondamentale, c'est de la marche rapide, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport ou comme activité pour s'entraîner sur ça une fois par semaine?
Alors, tout va dépendre du niveau physique de base, mais pour quelqu'un qui démarre et qui n'est pas du tout sportif, de la marche rapide et encore mieux de la marche en côte.
Oh, ça, c'est plus dur. Je préfère la marche rapide sur du plat. Bon, d'accord.
va répéter le style d'effort et de...
Parce que moi, en côte, je peux plus parler. Là, ça, c'est sûr.
Ce qui est bien avec la côte, c'est qu'on va répéter le style d'effort qu'on va connaître au ski tant au niveau musculaire qu'au niveau cardio.
Mais le vélo sur en salle, c'est bien aussi pour faire de l'endurance fondamentale.
Bien sûr, le but est d'atteindre cette fréquence cardiaque et ce rythme et cette intensité qui finalement n'est pas très intense.
Et donc ça, on le fait une fois par semaine à peu près pendant 8 semaines.
Exactement.
Ben Vincent, merci beaucoup. On va poursuivre cette discussion dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, attention, gardez vos baskets aux pieds quand même. On passe aux exercices de renforcement musculaire. On va préparer aussi vos articulations pour le ski ou le snowboard. On va vous donner des exemples d'exercices très concrets que vous pourrez faire chez vous pour vous préparer si vous avez la chance de partir bientôt au sport d'hiver. Ça ne sera pas douloureux, je vous le promets. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le coach sportif Vincent Martin. Alors Vincent, la préparation, ça doit commencer dans l'idéal 8 semaines avant, c'est ce que vous nous avez dit juste avant. On a parlé de la partie cardio de cette préparation, donc faire du cardio fondamental, c'est ça ?
L'endurance
fondamentale, pardon, ouais. Où on peut encore un petit peu parler, donc c'est pas non plus le cardio hyper dur. Enfin, en tout cas, on peut respirer, on peut parler. Mais le plus important, je crois... au-delà de cet entraînement une fois par semaine en cardio, c'est le renforcement musculaire, c'est-à-dire quoi précisément? Il faut renforcer quoi quand on va faire du ski ou du snowboard?
Alors en fait, il y a deux types de renforcement musculaire qu'il faut avoir. C'est un renforcement musculaire avec des entraînements d'endurance musculaire, donc c'est-à-dire globalement des séries assez longues, au moins 20 répétitions sur des exercices, et des temps de récupération assez courts, 30-45 secondes maximum entre chaque série.
D'accord.
Et ensuite, il va y avoir un renforcement musculaire de type isométrique.
Ce que vous disiez tout à l'heure, là, voilà. C'est tenir une position.
En fait, voilà, ça va être, par exemple, légèrement fléchir sur les genoux, bloquer le mouvement pour avoir une tension assez importante au niveau des muscles et des tendons, et progressivement...
Vous pouvez débloquer, Jimmy, c'est bon, débloquer les muscles. J'ai vu que vous étiez resté bloqué en isométrique.
Je suis tétanisé, là, voilà, ça y est.
Et donc
tenir cette tension musculaire de plus en plus pour acquérir un renforcement musculaire, une capacité à tenir une position qu'on va avoir en skiant ou en faisant du snowboard, et aussi pour renforcer les tendons.
D'accord. Et donc, pour le ski ou pour le snowboard aussi, sûrement, la partie qui est très importante, vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est quand même le bas du corps dans un premier temps. Quel exercice on peut faire déjà pour renforcer cette partie basse, on va dire? Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les squats, mais expliquez-nous ce que
Exactement.
C'est les squats et ce qu'on peut faire précisément.
Alors déjà, pour apprendre le mouvement de squat, c'est assez simple. Vous prenez une chaise, vous la mettez derrière vous, pas vraiment collée à vos jambes, vous faites un tout petit pas vers l'avant et vous descendez doucement comme si vous alliez vous asseoir sur la chaise. Alors, il faut que vous ayez le bassin qui va frôler la chaise. Et au moment
j'essaye de le faire en même temps. Voilà, c'est
relaxe dans le travail. À mon avis, il cherche quelque chose.
Ça fait mal un petit peu quand même.
Voilà,
hein.
Et au moment où vous allez frôler la selle, vous la chaise,
c'est plus
pardon,
dur que ça n'y paraît quand même.
Vous
je vais
bloquez,
lâcher, je crois. Bon.
Vous bloquez et vous remontez en expirant.
On voilà. En fait combien des comme ça?
Alors, il faut, comme je vous disais, l'idéal, c'est de commencer 8 semaines avant et d'y aller crescendo. Donc,
la première semaine,
vous en faites 20, 30, 45 secondes de récup et vous faites 2 à 3 séries comme ça.
Voilà,
et puis après, progressivement, chaque semaine, vous essayez de rajouter une série.
Et donc, à la fin des 8 semaines, on arrive à combien de séries maximum de squats, là, comme ça?
À la fin des 8 semaines, vous allez arriver à 8, 9 séries.
Oui, quand même.
Et voilà. Alors... Il faut savoir qu'après, dans la journée, quelqu'un qui fait une journée de ski complète, vous allez faire 6-7 heures de ski. Mmh. Donc finalement, 9 séries de squats,
c'est pas tant que ça. Jimmy ?
Alors, c'est pas une position sexuelle, les exercices de fente, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, les exercices de fente...
La sexo, c'est après, vous inquiétez pas.
Vous allez donc partir les pieds parallèles l'un à côté de l'autre. Vous lancez, par exemple, la jambe gauche vers l'avant. Vous vous retrouvez donc avec les pieds écartés. Vous restez de face à la pointe de vos pieds, et vous allez fléchir le genou arrière, fléchir également le genou avant, et vous allez avoir le genou arrière qui va frôler le sol, sans le toucher, et le genou avant qui va former un angle droit. Une fois que vous frôlez le sol, vous soufflez, vous redressez, surtout en gardant le dos bien droit, en ne plaçant pas le poids de votre corps sur le genou avant pour ne pas avoir une surtension sur ce genou. L'idéal, c'est de penser à bien répartir le poids sur tout l'exercice entre les deux pieds.
D'accord. Et on fait ça pareil, des séries, on fait
pareil.
Pour chaque exercice, c'est à peu près la même chose. On en fait d'abord une vingtaine et puis
c'est pas grave,
on en fait toujours une vingtaine et plusieurs séries comme ça.
Exactement. C'est pas grave si la première semaine, vous faites une série de 20.
C'est ça, c'est pas grave.
L'essentiel, c'est d'y aller crescendo et surtout, même dans la préparation, de commencer à se faire plaisir.
Et combien de temps entre deux séries? Est-ce qu'il faut faire, faut enchaîner les séries avec, je sais pas, 30 secondes de repos ou une minute ou 5 minutes, je sais pas.
L'idéal, c'est d'avoir entre 30 et 45 secondes de récup.
C'est assez court comme
pause. C'est court, en fait, finalement.
En fait, voilà, ça permet, en fait, de, en plus de ça, avec aussi peu de récupération, avec des séries aussi longues, vous allez déjà faire monter votre rythme cardiaque.
On fait un peu de cardio aussi
vous
en même temps.
Vous allez faire aussi un peu de cardio.
J'en
fais
toutes les 4 heures, en fait, les séries, donc c'est peut-être pour ça que les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais ça, c'est un autre débat.
Et donc, vous nous avez dit tout à l'heure que pour travailler, donc on, là, on a vu deux exercices, les squats et les exercices avec les fentes, donc voilà. La jambe à l'avant et on descend. On doit travailler donc en endurance musculaire et en isométrie. Ça veut dire quoi précisément? C'est-à-dire que là, on va garder la fente un peu, ou alors le squat, on reste plus longtemps en bas.
Voilà. C'est le même exercice, sauf que, par exemple, sur le squat, lorsque vous allez pousser le bassin vers l'arrière et que vous allez arriver le plus près possible de la chaise, vous bloquez votre mouvement.
Et je reste comme ça.
Et vous
c'est très dur et c'est là que ça fait très mal.
Voilà, il ne faut surtout pas bloquer la respiration.
Et combien de temps on reste comme ça? 5
alors,
secondes, 3 secondes.
Alors là, c'est pareil, c'est vraiment de manière crescendo. C'est absolument pas grave si la première fois, vous allez tenir 7-8 secondes.
Je ne suis même pas sûr qu'il tienne 7-8 secondes.
Une ou deux secondes, d'accord. 7-8 secondes, d'accord.
Vous n'imaginez pas le niveau sportif de Jimmy Mohamed.
Ah oui, oui, très bien.
Et l'essentiel, c'est de progresser pendant ces semaines de préparation.
Au bout des 8 semaines, normalement, vous tenez 3 minutes.
D'accord. Et on répète ça combien de fois? Pareil aussi, 10 fois ou...
Le but, en fait, sur une séance de renforcement musculaire, pour que ce soit ludique, vous pouvez alterner sur le même mouvement. Par exemple, sur un mouvement de squat, vous pouvez faire une série d'endurance musculaire, une série
d'isométrie,
un exercice d'isométrie. Comme ça, ça vous permet de ne pas avoir des séries trop monotones.
Alors là, on a parlé du bas du corps. On va dire qu'on a déjà les deux bons exercices, les fentes et les squats. Vous avez dit aussi qu'il faut quand même travailler le haut du corps quand on va se préparer au ski. Pourquoi il faut se préparer aussi le haut?
Alors, il faut travailler le haut du corps. Il faut travailler également le centre du corps. Donc,
partie abdominale,
ça va être le lien entre la force que vous allez dégager entre le bas et le haut du corps et inversement du haut du corps vers le bas du corps. Donc ça, il faut faire des exercices de gainage, donc la traditionnelle planche.
Voilà. J'ai déjà mal. Vous dites planche, je me sens déjà pas bien.
Donc la planche, alors beaucoup pensent que la planche, c'est obligatoirement sur les coudes et sur les pointes de pied et faire une planche parfaite. Sur l'ensemble de notre corps, pas forcément, on peut démarrer.
Si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave.
C'est pas grave si elle n'est pas parfaite dans un premier temps.
Il
faut quand même qu'elle soit sécuritaire, ne pas trop cambrer le dos. On peut démarrer sur les genoux, bien posé sur les coudes, et on peut même démarrer.
On va démarrer sur les genoux d'ailleurs, je crois.
Voilà. Hein, si on n'est pas à l'aise, on peut même démarrer sur les genoux et bras tendus, et progressivement.
Et éventuellement, vous pouvez me porter aussi en même temps.
Et voilà, on peut mettre un élastique pour vous porter.
Si vous pouvez les genoux et puis quelqu'un me tient, ça serait bien.
Voilà, donc ça va être un exercice excellent parce que ça va être un exercice qui va nous permettre de renforcer nos abdominaux, mais également nos lombaires, qui vont être très sollicités sur le ski. Puis bien sûr, il y a, comme vous le disiez, le haut du corps.
Pourquoi il faut tellement le solliciter, ce haut du corps? Parce que au ski, bon, ah oui, il y a les bâtons un peu, mais parce qu'on risque de tomber aussi, c'est ça?
Exactement. Alors ça peut être sur les chutes. Si on chute, en fait, très souvent, on va amortir avec les bras. Et les muscles qui vont amortir, ça va être les triceps, les deltoïdes antérieurs, donc c'est l'avant de l'épaule, et les pectoraux. Mmh. Donc, ça va amortir une chute. Et ça va nous permettre aussi de nous relever quand on tombe.
Et là, le secret, je crois que malheureusement, c'est les pompes.
Et le secret, c'est les pompes.
Alors pareil, vraiment, les pompes, ça fait... Alors ça, vraiment, je déteste ça. Moi, j'arrive même pas à en faire deux.
Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer? Parce que là, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les déconvenues.
De toute façon, vous n'allez pas partir au ski cette année, donc c'est pas grave.
Non, c'est vrai. Mais bon, quand même, j'avais espoir peut-être cet été.
On peut faire une préparation pour 2021.
Voilà. Ah ben oui, c'est un an avant, c'est bien pour vous, Jimmy.
Les pompes, alors c'est pareil, les pompes, ça fait souvent peur parce qu'on a en tête la pompe de Sylvester Stallone, parfaite. Avec une.
Alors apprenez-nous la pompe, pas tout à fait parfaite.
Celle de Mélanie Gomez, par exemple.
Alors la pompe Jimmy Mohamed, par exemple, ça va être.
Il a bien compris qui était sportif.
Une pompe où on va être sur les genoux. On n'est pas obligé d'avoir.
La pompe de lâche. Non, moi je refuse d'être associé à ce genre de pompe sur les genoux. Non, franchement, un peu de dignité quand même, je suis père de famille. Non, je refuse d'être associé à la pompe
bon,
des genoux.
Bon, expliquez-lui la bonne pompe.
On peut donc se mettre sur les genoux, avoir le corps qui n'est pas forcément en position de planche. L'essentiel, pareil, c'est d'être sécuritaire et d'y aller progressivement. Si la première fois, on n'arrive pas à descendre assez bas et avoir le thorax qui frôle le sol, c'est pas grave. Dans tous les sports, le but, c'est les deux règles, c'est de se faire plaisir et d'y aller progressivement.
Une fois qu'on est au ski, qu'on est arrivé au sport d'hiver, là aussi, il y a des choses à faire, des façons de se préserver, d'éviter d'être blessé. Déjà, une fois qu'on y est, est-ce qu'il faut vraiment skier tous les jours? Je crois que vous avez des conseils là-dessus aussi, hein?
Oui, alors souvent les gens sont...
On y va pour une semaine.
Voilà, ils attendent cette semaine avec impatience. Ils sont arrivés le dimanche, ils ont roulé, ils sont fatigués, ils vont louer les skis tout de suite. Et on enchaîne avec la première journée de ski. Donc là, on est au taquet, à l'ouverture des remontées mécaniques.
On a été bien préparé parce qu'on a suivi tous vos conseils. Donc
voilà,
on est à fond,
exactement.
On est prêt.
Et on va se faire une journée de ski entière, puis une deuxième. Et là, souvent, à partir du mardi soir, on commence à être fatigué.
Les chiffres le montrent. Hein. Les blessures, elles sont quand ?
90% des blessures arrivent à partir du mardi soir.
Très tôt dans la semaine, hein,
voilà,
finalement.
Très tôt dans la semaine. Et les gens ont un vrai coup de fatigue vraiment à partir du mercredi matin. Donc très souvent, on peut préconiser deux techniques pour se préserver. C'est soit faire un jour off, qui va être le mercredi.
On fait autre chose,
on profite de la montagne différemment. On va visiter le village d'à côté, on va faire de la luge avec ses enfants ou autre. Et on peut repartir sur la deuxième semaine, sur la deuxième partie de semaine. Sinon, on peut démarrer sur les trois premières journées avec juste une demi-journée de ski.
C'est moins violent pour l'organisme.
C'est moins violent et on se rend compte des fois qu'on se fait même plus plaisir à avoir trois heures de ski.
Un peu intense,
vraiment on se fait plaisir et on se sent en pleine forme.
Jimmy ?
Est-ce qu'il faut s'étirer de la même façon que lorsqu'on fait un footing quand on fait du ski ?
Alors déjà, la majorité des gens qui s'étirent vont s'étirer tout de suite après leur entraînement.
À la fin de la journée.
C'est pas bien ça ?
Ça, c'est une erreur. Est-ce que vous avez déjà vu un skieur arriver, franchir la ligne et s'étirer tout de suite ?
Non, on ne les voit pas, les professionnels.
N'importe quel pro, un cycliste du Tour de France, lorsqu'il franchit la ligne,
on ne les voit jamais s'étirer tout de suite.
Et regardez, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent une bouteille d'eau et ils boivent.
Donc, l'hydratation, par contre, la
première chose à faire, c'est de boire, puis d'attendre, de récupérer, de se mettre dans un endroit chaud et une heure après l'effort, commencer à s'étirer.
Il ne faut pas s'étirer tout de suite.
Les muscles sont ultra tendus. Donc, c'est comme si vous prenez un élastique, vous le tirez. Donc, il est déjà ultra tendu. Et puis, vous allez tirer encore plus dessus. Mmh. Puis, au bout d'un moment, les fibres musculaires lâchent.
On risque de se blesser en s'étirant. Intéressant ça.
Je ne savais pas. Il faut s'étirer aussi avant l'effort ou ça n'a pas trop d'intérêt ?
Alors, il faut s'étirer avant l'effort. Ça va permettre de détendre les muscles et de les préparer après une nuit où ils ont été totalement au repos. C'est bien aussi de les étirer parce que le corps n'est pas habitué à faire un effort dans le froid. Là, on va se retrouver dans un...
Ça fait un peu un échauffement.
Pas besoin de faire des longs étirements.
Qu'est-ce qu'on fait comme exercice pour bien s'étirer, justement ?
Alors, par exemple, vous allez préparer les quadriceps. Les quadriceps, c'est le muscle qui est sur l'avant de la cuisse. Donc, vous vous mettez bien droit, vous allez prendre votre cheville, vous allez ramener le talon vers les fessiers.
Mmh.
Donc,
appuyez-vous
sur quelqu'un, sur un arbre, sur votre femme.
Enfin, ce que vous voulez.
Vous allez tirer sur le quadriceps. Pas besoin de rester trop longtemps. Vous faites ça 10 secondes sur les deux
jambes. Chaque jambe,
voilà. Vous allez tirer, par exemple, à la fois vos lombaires et vos ischios, c'est-à-dire l'arrière de vos cuisses. Vous allez vous pencher vers l'avant en essayant doucement d'aller chercher vers votre pointe de pied. C'est absolument pas grave si vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et puis, ce qui est important et ce qui est souvent très tendu aussi sur le ski, c'est étirer vos mollets.
D'accord.
Donc, vous allez mettre la jambe vers l'avant, relever la pointe de pied et essayer d'aller chercher doucement vers la pointe.
Et cet étirement, pour terminer, dure combien de temps ?
Pas besoin de s'étirer très longtemps. Vous faites 5 minutes avant le ski, 5 à 10 minutes
et
après.
Pareil, une heure après, on fait 5 minutes d'étirement, ça suffit largement.
Ça sera parfait.
Et avec tous ces conseils, on peut être bien préparé et éviter les blessures.
Merci beaucoup,
Vincent Martin, d'être venu sur notre plateau nous préparer donc au sport d'hiver. En suivant tous vos conseils, on peut éviter un certain nombre de blessures. Je rappelle que vous êtes responsable de l'expertise sportive chez Neoness. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des morpions, ces insectes le plus souvent transmis sexuellement. On les déteste évidemment. Eh bien, on va vous dire comment les repérer et surtout comment s'en débarrasser. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle des morpions. Savez-vous à quoi ressemblent ces insectes ? Savez-vous comment on peut les attraper ? Et surtout comment on s'en débarrasse si c'est le cas ? Justement Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Comme les poux dans les cheveux, mais placés au niveau des poils pubiens.
Maladie sexuellement transmissible, je crois que ça gratte.
Je sais ce que sont les morpions et je sais aussi qu'ils sont en voie de disparition.
C'est vraiment tout petit, hein. C'est une couleur blanc de 3 mm en fait.
C'est vraiment des petites bêtes, c'est un peu comme des poux en fait, mais sauf que ça saute pas.
Grâce au jeu morpion à gratter, je sais à peu près à quoi ça ressemble. C'est une petite bestiole, ça doit avoir 6 pattes, un truc comme ça.
Quelqu'un qui se lave pas forcément, ou c'est par rapport à l'hygiène.
Moi ça m'a jamais... touchée, mais par contre, j'ai un ami qui un jour a eu la malheureuse expérience dans sa douche de voir qu'il y a des trucs qui vivaient sur lui, et ça l'a complètement dégoûté, le pauvre.
Grâce à Grey's Anatomy, je crois que c'est des traitements style crème, etc., que tu dois mettre dessus, ou peut-être comme les poux, un peu shampoing anti-poux, mais pour les morpions.
Bah, à mon avis, le plus simple, ça serait encore de tout raser, non?
Tout raser, ben oui, on va voir que ça fait peut-être partie effectivement de l'arsenal pour s'en débarrasser. Alors Jimmy, on veut tout savoir sur les morpions. Dites-nous en plus sur ces insectes, s'il vous plaît.
On appelle ça le Ptirius pubis, c'est un petit insecte appelé classiquement
Ptirius, vous voulez
pubis.
Redire
Ptirius, parce que voilà, ça vient du latin, mais n'allons pas embêter nos auditeurs.
Non, bien sûr, allez-y.
Donc, c'est les classiquement appelés morpions, poux du pubis ou morbac pour les intimes.
C'est ça.
Il mesure 2 à 3 mm de longueur et il ressemble à un crabe. Mmh. Il présente un corps qui est assez large. Ses petites pattes sont puissantes et pourvues de 2 grosses pinces qui lui permettent de s'agripper aisément au poil. Oui. C'est un insecte qui est dit hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit du sang.
Hémato, le sang, phage, oui, c'est ça.
Exactement. Vous connaissez aussi vos bases de latin. Qui vit accroché au poil à proximité de la peau et qui pond des œufs, les lentes, sur les poils. Comme vous le savez, Mélanie, il aime beaucoup les poils du sexe. Et pourtant,
rien,
il colonise aussi d'autres zones pileuses, comme les poils du torse ou encore les aisselles.
Très bien. Moi, j'y connais rien. Alors, comment on les repère, justement? Comment savoir qu'on a attrapé des morpions?
Ah bah déjà, on peut s'en rendre compte. Il
ça
suffit
gratte.
De les voir. Bah oui, ça gratte et puis on peut les reconnaître assez facilement. Sur les poils, on peut en retrouver, notamment aussi des lentes qui sont grises et bien accrochées quand elles sont vivantes. Et puis, lorsqu'elles sont mortes, elles sont blanches et elles se détachent et elles tombent. Un peu comme la neige. C'est un peu moins poétique, mais... c'est un peu dégoûtant.
C'est un peu comme les poux et les lentes. Finalement, les lentes, quand elles sont mortes dans les cheveux aussi, elles se détachent facilement. Quand elles sont vivantes, elles sont bien agrippées.
Exactement.
Hein.
Et enfin, petit moment de poésie. Regardez dans votre slip.
Ah,
et vous rendrez
bon
compte
conseil,
que
ça.
Vous pouvez retrouver des petites traces sanguinolentes marron qui ont un allure un peu poudreux qui correspond aux déjections des morpions, notamment du sang digéré.
Ils font caca, les morpions.
Et oui,
alors,
donc il faut regarder sa culotte pour savoir si on a des morbacs.
D'accord, très bien. Merci, Jimmy. Bon, c'est vraiment délicieux cette chronique. On est d'accord, ça se transmet sexuellement, les morpions. J'allais dire les morbac, mais...
Oui, non, mais c'est vrai, la transmission, elle est essentiellement sexuelle ou par contact direct avec des poils infectés et le parasite vivant ne peut rester que 24 heures en dehors d'un corps parasité. Il a besoin d'un hôte et donc vous pouvez le garder sur la literie pendant quelques temps, mais après, le pauvre, il meurt et il passe à autre chose.
Mais tant mieux, on est content qu'il meure ce morbac. Jimmy, surtout, et c'est ça qui est quand même le plus important, je vous en supplie, dites-nous comment on s'en débarrasse, dites-nous tout là-dessus.
Ah bah écoutez, il va falloir vraiment être très gentil, parce que les morpions, c'est un traitement pénible, et donc on va vous donner la solution. La première, c'est d'utiliser un insecticide à base de pyréthrine. Alors, on ne donnera pas de marque, mais il suffit d'aller à la pharmacie, il existe de nombreuses gammes. Le pharmacien, malheureusement, est souvent habitué
donc
à ça.
Donc, ils connaissent ça. Il suffit de poser la question à son pharmacien.
L'auditrice disait tout à l'heure, bah, parfois, il faut raser. Bah oui, souvent, le rasage est inévitable. Et donc, mieux vaut, parce que comme il s'accroche
quand
au poil...
Quand il n'y a plus de poils, il n'y a plus de morpions.
Exactement. Plus de poils, plus de morpions. Et du coup, lorsqu'on est traité, il faut aussi traiter la literie. À ce moment-là,
il faut traiter... Ils peuvent rester un petit peu dans les draps.
Donc jusqu'à 24 heures. Traiter aussi le linge qui a été en contact. Utiliser un insecticide adapté pour désinfecter notamment le linge. Il faut évidemment tout laver. Et puis n'oubliez pas, comme c'est une infection sexuellement transmissible, on dit souvent qu'il faut traiter le partenaire. Et bien là, c'est exactement la même chose, puisque vous pouvez vous réinfester.
Ah oui,
donc
oui.
Si vous avez un ou plusieurs partenaires, nous ne sommes pas là pour juger, et bien il faudra aussi l'informer et puis traiter, puisque c'est comme ça qu'on arrête la contamination, puisque sinon la personne
c'est
va
c'est une infection sexuellement transmissible d'une certaine façon,
et
donc
puis
on
ne pas
traite
hésiter,
aussi le partenaire.
Si vous avez d'autres symptômes, à faire aussi des prises de sang ou des analyses d'urine, parce que vous pouvez aussi avoir une autre infection de type sexuellement transmissible.
Pardon. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils très intéressants.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec Catherine Blanc, il sera question de ces couples qui n'ont plus aucune relation sexuelle mais qui s'aiment pourtant. Catherine nous dira si c'est vraiment possible de rester unis quand toute sexualité a disparu. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Valérie. Je vous la lis, je suis mariée depuis 40 ans avec mon mari. Tout se passe très bien, mais nous n'avons plus aucune relation sexuelle depuis 3 ans. Ah bon, tout se passe bien, bon d'accord. Je ne ressens pas du tout le besoin, mais je me sens bien avec lui. Je n'ai aucune envie de me séparer de lui. Je crois que lui, c'est pareil. Est-ce que c'est terminé du point de vue sexuel? Bon, Catherine, avant de répondre à la question de Coralie, tout à fait. Est-ce que c'est naturel d'avoir une baisse de libido à passer un certain âge ? Elle dit qu'ils ont 40 ans de mariage. Donc, je pense qu'ils ont, du coup, quand même quelques années. Ça arrive à tout le monde en vieillissant, mais là, de là, arriver à plus rien du tout
c'est... Ça arrive souvent.
Ah oui,
ça arrive souvent que des couples n'aient plus de désir, que l'un n'ait l'autre, ou l'un ou l'autre. Toute la difficulté, c'est quand c'est l'un ou l'autre, et qu'il y a évidemment celui qui est encore animé de désir, qui subit le non-désir de l'autre, qui s'est installé dans une autre façon de concevoir la relation, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de sécurité,
d'amitié,
avec beaucoup d'amitié,
parfois, ouais.
Mais d'amour même. Ça peut être charnel d'une façon plus câline, plus dorlotante et moins sexuelle, moins sur les sexes. Ça peut démarrer parce que, justement...
Et au point d'arriver à zéro désir de sexualité, comme elle le décrit, c'est quand même exceptionnel. Zéro, au bout de 40 ans de mariage, plus rien.
Non, ça arrive, bien sûr que ça
plus
arrive.
Souvent qu'on le croit. Alors.
Bien sûr. Et dans la mesure où les deux participent de cet élan, c'est une façon, ils ont trouvé leur modus operandi, ça leur convient. Alors peut-être qu'évidemment, à y regarder de plus près, c'est un couple qui s'est organisé aussi d'une manière un peu particulière, peut-être très fusionnelle au début de leur relation. Et du coup, cette fusion a rempli tout l'espace et la sexualité n'était pas nécessairement ce qui permettait de se remettre en lien, puisqu'ils étaient déjà très mêlés l'un à l'autre. Donc ils n'ont pas nécessairement besoin de cet impulse que donne la sexualité.
Jimmy ?
C'est quelque chose qu'on peut peut-être comprendre en se disant 40 ans de vie commune, peut-être qu'ils sont mariés, je ne sais pas, à 30 ans, ils ont 70 ou peut-être un peu plus, 80 ans. On peut essayer de le comprendre. Mais est-ce qu'un couple plus jeune pourrait vivre la même situation et bien le vivre ? Est-ce qu'à 50 ans ou 40 ans, je ne sais pas, on peut ne plus du tout avoir de relations sexuelles sans pour autant que l'un ou l'autre aille voir à droite ou à gauche et en restant heureux ? C'est possible une vie épanouie sans sexe, même quand on n'est pas très âgé ?
En fait, c'est possible parce que la sexualité, c'est pas que l'émotion, c'est pas que l'excitation de la zone sexuelle, c'est aussi un projet, c'est aussi une ambition, etc. Et certains vont sublimer la sexualité, ils vont mettre la sexualité sur d'autres choses qui vont être source d'excitation. Ça peut être artistique, ça peut être souvent dans des choses très créatives, délaissant la sexualité, et surtout si les deux le voient dans cette direction-là. Donc, ça n'est pas grave, encore une fois.
C'est pas vital d'avoir une sexualité, en fait.
Ça n'est absolument pas vital. Ce n'est que pour faire des bébés que c'est indispensable. Et encore aujourd'hui...
Pour se faire plaisir aussi,
oui,
quand même.
Oui, mais indispensable pour faire des bébés.
D'accord, oui, voilà. Oui, c'est que pour ça.
Après, se faire plaisir, il y a 1000 façons de se faire plaisir, 1000 zones du corps qui peuvent être stimulables, sans que nécessairement avoir recours au sexe. Et évidemment que cela pose problème à partir du moment où il n'y en a qu'un des deux qui a déserté la sexualité, faisant
souffrir l'autre.
Mais
elle pose la question
l'autre.
Quand même. Alors, je me dis, si elle pose la question, c'est peut-être quand même qu'au fond, ça doit lui poser problème. Elle dit que donc, ils n'ont plus aucune relation sexuelle depuis 3 ans, qu'elle n'a aucune envie de se séparer de lui, qu'elle l'adore, qu'elle croit que pour lui, c'est pareil. Elle pose quand même la question, est-ce que ça veut dire que c'est terminé d'un point de vue, du point de vue sexuel ? Donc, si elle pose la question, c'est peut-être quand même que c'est pas tout à fait réglé.
Alors, où c'est effectivement quand même un questionnement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu triste de se dire que ceci s'est tu. Ou alors c'est du point de vue de l'injonction de la société qui fait qu'on se pose la question si voilà, ça y est, ça c'est un dossier rangé, bien rangé, définitivement rangé, on peut passer à autre chose, ou est-ce que ça peut renaître avec aussi l'anxiété que ça peut faire naître en renaissant. Donc évidemment que la sexualité peut renaître, mais elle ne va pas tout d'un coup renaître toute seule. C'est parce qu'on regarde le monde d'une certaine façon, on se regarde d'une certaine façon et on regarde l'autre. Mais évidemment, il faut se donner cette possibilité de se voir potentiellement en chemin dans la sexualité.
Jimmy ?
Est-ce que Valérie ne devrait pas remettre une petite pièce dans la machine ? Histoire de faire un essai, de se dire allez, on y va,
allez,
non pas qu'on va se forcer.
L'appétit vient en mangeant, comme on dit.
Oui,
quand on sait que le sexe féminin est appelé dans certaines régions, on dit aux petites filles qu'elles ont une tirelire, votre pièce dans la machine est tout à fait heureuse, Jimmy.
Veuillez m'excuser. Non, mais voilà, l'idée,
c'était. Vous ne connaissez pas cette expression, non. D'ailleurs, Jimmy.
Non, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se forcer une fois pour voir est-ce que finalement on se dit j'avais peut-être un manque et ça relance un peu le désir, ou ça ne sert à rien de se forcer d'aller faire un essai inutile ?
Je trouve que c'est toujours intéressant. Souvent, on se fait une idée qu'on n'en a pas envie. Et puis, dans la mesure où nos corps ne sont pas étrangers l'un à l'autre et qu'il y a beaucoup de douceur, de tendresse, etc., on peut se donner l'occasion de se remettre en scène et voir effectivement si les corps s'y retrouvent. Ceci étant, dans leur cas, les deux n'ont pas le désir. Donc, il faudrait quand même que les deux soient avec une dynamique dans la même direction. Et là, c'est un peu autre chose.
Merci.
Donc, à chacun son rythme et le droit aussi de laisser passer la sexualité.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, vous le savez, c'est vendredi et donc nous sommes en public. Public qui risque d'être sacrément déchaîné avec nos invités du jour, Élie Semoun et Florent Père, qui viennent nous présenter les nouvelles aventures de je ne sais pas comment on dit, on leur demandera.
Merci beaucoup Mathieu, beau programme, on va écouter ça évidemment avec grand plaisir, comme tous les jours, et vous aussi, restez sur Europe 1.